Et Caroline, on débute avec des méthodes pour la réutilisation des eaux usées.
Il en est question depuis hier à Bonifacio, où experts et élus sont présents. Des rencontres qui se poursuivent aujourd'hui encore avec des initiatives innovantes, comme celle conduite par la Cité des Falaises, la seule commune de Corse à s'être dotée d'une station membranaire d'épuration. Elle parvient à traiter chaque année 240 000 mètres cubes d'eau usée, dont 100 000 sont destinés en produits finis à l'arrosage du golfe de Sperone. Et l'objectif pour la municipalité, c'est d'aller encore plus loin dans cette démarche en redéfinissant un schéma directeur de réutilisation des eaux usées. Christelle Longuet, Émilie Lire est la directrice générale adjointe en charge des services techniques.
On consomme pratiquement 840 000 mètres cubes d'eau par an, et notamment en période estivale, et on n'en traite qu'un quart, 240 000. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui pas un réseau déployé en dehors de la ville, donc on n'a qu'un quart d'abonnés qui sont reliés aux eaux usées de la ville, au réseau public. Notre objectif, c'est aussi ça, redéfinir un schéma directeur pour voir comment on pourrait collecter d'autres abonnés usagers sur l'eau, voir peut-être comment on pourrait déployer une autre usine d'assainissement en dehors de la ville, qui serait elle plutôt à proximité des terrains, on va dire, à destination de l'agriculture, parce qu'au final, eux, ils souffrent énormément. Ils ne sont pas tous sur notre tracé de canalisation et il faut travailler avec eux pour pouvoir définir leurs besoins.
Et une nouvelle politique de l'eau a été adoptée fin mars par l'Assemblée de Corse avec l'Agence de l'eau. La collectivité a mis en place un règlement des aides à destination des communautés d'agglomération et des communes. Les projets pourront être financés jusqu'à 80% et certains territoires ont été d'ores et déjà identifiés à titre d'expérimentation, comme nous l'explique le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni.
Il y a par exemple du côté de Borgo Luciane, il y a également Portivé, il y a un certain nombre de communes dans le Valinco et puis d'autres sites qui sont encore en situation d'expertise. Mais ces premiers territoires pourraient, si les élus locaux le souhaitent et le décident, faire l'objet d'expérimentations ou de réalisations qui nous conduiraient sur des schémas de réutilisation des eaux usées. L'enveloppe globale est fait partie du financement sur les réseaux d'eau et d'assainissement. En ce qui concerne l'eau, nous avons un plan opérationnel sur 10 ans qui prévoit des investissements annuels de 20 millions d'euros, donc une enveloppe totale de 200 millions d'euros. Et puis ensuite, il y a les financements complémentaires et additionnels, notamment ceux de l'Agence de l'eau et les financements européens.
Un reportage signé Roland Frias.
Christophe Guazzelli a entamé, selon son avocate, une grève de la faim et de la soif depuis le 9 juin.
Transféré lundi de la prison des Baumettes à celle de Grasse, celui que l'on présente comme l'héritier de la Brise de Mer conteste son placement à l'isolement. Il a été condamné, rappelons-le, pour trafic de stupéfiants à 10 ans de prison et il est poursuivi également pour le double assassinat de Porrette. Son avocat, maître Christine Darigo, craint pour sa vie et dit n'avoir aucune réponse de l'administration pénitentiaire. Elle dénonce également des pressions dont serait victime son client, sans plus de précision. On l'écoute au micro de Paul Ortoli.
Aujourd'hui, Christophe Guazzelli est en grève de la faim et surtout de la soif, ce qui est extrêmement difficile à tenir, vous le savez, parce que nous avons tout essayé sur un plan judiciaire, juridique. Tous les recours ont été effectués, y compris jusqu'au Conseil d'État, pour contester son placement à l'isolement. L'isolement, c'est fait pour casser les gens. Ça fait 3 ans et demi aujourd'hui qu'il est en situation d'isolement. C'est la prison dans la prison, c'est la torture blanche. Il est 23 heures sur 24 dans une cellule. Ce sont des conditions inhumaines et dégradantes de détention. Cet homme réclame juste une détention normale. Il reste extrêmement déterminé. Il ne lâchera pas.
Est-ce que votre avis, c'est son casier judiciaire, l'héritage qu'il porte, qui lui vaut ce traitement carcéral?
Christophe Guazzelli, il n'a hérité de rien du tout. Christophe Guazzelli, je ne veux même pas parler des faits qui lui sont reprochés, parce que sinon il faudrait mettre la moitié des détenus en prison à l'isolement. Ces conditions de détention ne peuvent être justifiées par le procès qu'il occupera plus tard, ni par les faits qui lui sont reprochés. Ces conditions de détention posent question aujourd'hui sur les pressions qui peuvent être exercées sur l'administration pénitentiaire, pressions extérieures. Je me pose beaucoup de questions aujourd'hui.
Des pressions qui viennent de qui, selon vous?
Je ne peux pas répondre à cette question. Je vous laisse y réfléchir.
Les suites de l'enquête sur l'agression dans une loge du match ACAOM.
3 personnes sont toujours en garde à vue. Une 4e personne interpellée hier matin a été remise en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue. Pour 2 autres suspects âgés de 19 et 20 ans, les gardes à vue ont été prolongées. Ils pourraient être présentés dans la journée au parquet. Toutes les détails sur notre site Bleu RCFM.
Et dans l'actualité, Caroline, la pollution générée par les bateaux de croisière a à nouveau dénoncée hier à Ajaccio.
7 membres du collectif citoyen Stop Croisière ont mené une action hier sur le port. Les manifestants attendait l'arrivée d'un navire de la compagnie allemande TUI Cruise qui a été condamné l'an dernier à une amende de 60 000 euros pour des rejets de soufre plus élevés que les normes autorisées. Il faut savoir qu'à partir du 1er mai 2025, les navires seront obligés sur l'ensemble de la Méditerranée de respecter une limite de teneur en soufre dans leur carburant. 2025, c'est trop loin pour ce membre de Stop Croisière qui a tenu à garder l'anonymat.
partout où on peut obtenir des progressions, on essaie de le faire. L'objectif, c'est le zéro croisière, mais on essaie de faire progresser en attendant. Si on ne lance pas déjà un ralentissement des croisières, de plus en plus, on va être dépendant de ce modèle économique-là, parce qu'on a des tas de commerçants qui, à Ajaccio, par exemple, commencent aujourd'hui à s'adapter à ce public-là et le reste de l'année être fermé. Donc c'est déjà un développement économique qui est particulier et que je ne pense pas qu'il serve les habitants d'Ajaccio. Et puis oui, il faut que ça soit progressif, on ne peut pas arrêter forcément du jour au lendemain. L'objectif, c'est vraiment un développement économique sur l'année qui ne soit pas dépendant de l'afflux massif de quelques individus pendant un temps qui enrichissent une petite partie de commerçants, même pas la majorité des commerçants d'Ajaccio.
8h06, ils sont en train de plancher, Caro.
Et oui, eux, ce sont les lycéens de terminale qui passent en ce moment, depuis 8h, l'épreuve du philo du bac. C'est l'une des deux dernières épreuves de terminale avec le grand oral. Il y a moindre stress car pour la première fois, la plupart des candidats savent déjà s'ils ont décroché le diplôme avant même d'attaquer l'épreuve.
Et des lycéens qui, avant cela, ont participé à la 6e édition du concours des plaidoiries lycéennes. C'était au lycée de Jocante, Sébastien.
Un concours organisé par la Ligue des droits de l'homme et l'Académie de Corse la semaine dernière, donc au lycée de Jocante, les lycéens volontaires ont pu présenter leur plaidoirie parmi les thèmes refus des discriminations, sort des migrants en Méditerranée ou encore défense de l'environnement. Et le reportage de Camille Parsi.
Tous ceux qui nous ressemblent, alors dis-le, merci.
Des jeunes de 15 à 17 ans réunis pour défendre les droits de l'homme, et pour beaucoup, comme Farah, Alix ou Astrid, c'est une première.
Je trouvais que c'était très intéressant, et de pouvoir plaider pour une cause qui me tient à cœur. J'ai découvert plusieurs choses, d'aussi à quel point le métier d'avocat est dur.
Pour s'entraîner à l'oral, pour l'élocution, même parce que le sujet de l'environnement c'est important de nos jours.
Le droit d'asile est un droit fondamental, d'après l'article 19, nul ne peut être éloigné.
De plus en plus à l'actualité. Enfin, à chaque article qu'on voit ou même chaque photo qu'on voit, ça nous choque de plus en plus. Et donc on a eu besoin d'en parler.
Des plaidoiries bâties avec l'aide de leur professeur, Lesia Rogliano, enseignante au lycée du Fong, participe avec ses classes depuis plusieurs années.
Les élèves viennent nous trouver. Ils vont nous demander par petites touches s'ils peuvent parler de ceci ou cela, ou comment ils peuvent l'aborder ou de quelle manière. Est-ce qu'ils doivent se détacher de leurs notes ? On est là évidemment pour les aiguiller. Et bien souvent, le résultat est à la hauteur.
Un niveau dont se félicite cette année encore Elsa Renaud, de la Ligue des droits de l'homme.
Ce concours donne un espace de parole à des jeunes indignés, révoltés par les injustices. C'est comme une tribune, ils s'emparent de la parole et viennent s'exprimer avec beaucoup, beaucoup de conviction et nous touchent et nous interpellent et en appellent aux consciences.
Remise des prix prévue le 3 juillet à Ajaccio, une dizaine de candidats seront ensuite reçus à l'Assemblée nationale par les 4 députés insulaires.
Sachez enfin que c'est la journée mondiale du sang. Elle intervient quelques jours après le lancement d'une nouvelle campagne de l'établissement français du sang. Il y a près de 90 000 poches pour l'instant, niveau toutefois insuffisant avant l'été, où plus de 100 000 poches sont nécessaires.